Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Terribilis est locus iste. Ce lieu est terrible. C'est ici la maison de Dieu et la porte du ciel. Vous avez reconnu, mes bien chers frères, l'exclamation du patriarche Jacob à Bethel, où il a vu pendant la nuit une échelle immense se dresser jusqu'au firmament, par laquelle des anges montaient et descendaient pour se livrer à de mystérieux échanges entre la terre et le ciel. Terribilis est locus iste. Et nous pourrions en dire autant de la petite ville de Cana. Bien sûr, c'est avec joie que nous retrouvons chaque année le récit de ces noces où Jésus fit son premier miracle de manière à la fois si simple, si paisible, si familiale, on pourrait presque dire si plaisante et si conviviale. Nous rattacherions volontiers cette scène au mystère joyeux de notre rosaire. Mais ces mystères joyeux ont aussi souvent un aspect terrible, et Cana ne fait pas exception. Au milieu des chants et de la gaieté de ce repas de fête, un drame sacré s'accomplit. Et comme Moïse se déchaussant pour approcher du buisson ardent, nous devons l'aborder avec un très grand respect. Que l'apôtre Saint Jean et Notre-Dame et notre Seigneur lui-même nous y aident. C'est à travers le regard de chacun d'eux que nous allons essayer de percer le mystère. Voyons successivement ce qui s'est passé dans le cœur de Saint Jean, dans celui de Notre-Dame et dans le sacré cœur de notre Sauveur au cours de cette festivité. Du côté de Saint Jean, tout semble clair, il le dit lui-même à la fin du récit. Tel fut le premier signe que Jésus accomplit. Il le fit à Cana de Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. On pourrait seulement se demander comment et pourquoi ses disciples suivaient Jésus si jusqu'ici ils ne croyaient pas en lui. Mais Saint Jean a expliqué juste auparavant comment lui et quelques autres étaient jusqu'ici disciples de Jean-Baptiste. Ils ont entendu le Baptiste rendre témoignage à Jésus. À plusieurs reprises et de façon insistante, il a déclaré que Jésus était plus grand que lui. Et le jour où de nouveau le Baptiste désigne Jésus en déclarant « Voici l'agneau de Dieu », il se décide. Ce sont d'abord Jean et André, puis Simon, frère d'André, puis Philippe et Nathanaël, qui déclarent à Jésus leur volonté de le suivre. Et les noces de Cana ont lieu seulement 3 jours plus tard. On peut presque dire que Saint Jean est encore en phase d'observation. Le miracle sera décisif. Jésus manifeste sa gloire et ses disciples croient en lui. Mais avant même ce prodige, Jean a fait une autre rencontre. Il le dit dès le début du récit. Il y eut des noces à Cana de Galilée et la mère de Jésus était là. C'est la première rencontre entre le disciple bien-aimé et celle dont il ne précise jamais le prénom, Marie, mais qu'il désigne toujours comme la mère de Jésus. Depuis 3 jours, il observe le Fils, et c'est évidemment avec une très grande curiosité qu'il fait connaissance de la mère. Il en remarque tout de suite la charité prévenante, l'efficacité et la discrétion. Elle a su voir le besoin des jeunes époux. Elle s'en est aussitôt préoccupée, mais elle n'a pas eu un mot de trop. On comprend aisément que le dialogue échangé entre Marie et Jésus se soit imprimé dans la mémoire de saint Jean. Quand il entend la réponse de Jésus, « Femme, qu'est-ce que ceci pour moi et pour vous ?» Il ne sait pas encore comment, sur la croix, Jésus emploiera la même appellation pour déclarer « Femme, voici votre fils », en désignant précisément saint Jean. Mais au moment où il écrit son évangile, il a évidemment fait le lien entre les deux sentences. Et ici, il faut préciser que le terme de « femme » ainsi employé n'est pas du tout un terme de rebut ou de mépris, comme cherchent à le faire croire certains protestants. En araméen, il correspond à peu près au terme « madame » et il est fréquemment employé par les hommes qui parlent à leur mère en public, en dehors du cercle familial. Évidemment, il convient encore plus dans les circonstances solennelles. Et Jean voit bien que la circonstance est solennelle, puisque c'est le premier signe divin personnellement accompli par Jésus. Bien sûr, Jésus a déjà été chanté par les anges, il a été adoré par les mages, il a été montré par Jean-Baptiste, il a même reçu lors de son baptême l'attestation visible et sonore du Père et du Saint-Esprit. Mais il n'a encore de lui-même fait aucun signe manifestant clairement sa mission. Or voilà que Jésus enfin se manifeste. Et Jésus remarque qu'il l'a fait à l'initiative de sa mère. Jusqu'ici, ni Jean-Baptiste, ni l'arrivée des premiers disciples, ni même l'intervention du Père et du Saint-Esprit n'ont pu décider Jésus à faire ce premier miracle. Il fallait que sa mère le lui demande, et tout se passe comme si Jésus attendait cette intervention. Et depuis longtemps, puisqu'en fait, depuis plus de 30 ans, l'épiphanie, c'est-à-dire la manifestation du Sauveur, l'épiphanie attend sa conclusion. Jésus a été manifesté de l'extérieur, mais il doit lui-même achever, et pour ainsi dire, signer cette manifestation par un acte personnel. Par le miracle de Cana, il le fait enfin. Il entre, pour ainsi dire, officiellement dans sa vie publique, on pourrait dire dans sa carrière de Messie. Et Jean le souligne, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Mais il souligne en même temps que lui et les premiers apôtres doivent leur foi à cette intervention de la Vierge Marie. Il est temps, mes frères, de jeter un regard vers Notre-Dame. Pour elle, ses noces sont d'abord des retrouvailles, puisqu'elle y retrouve son fils qui a quitté la maison familiale depuis près de 2 mois. Bien sûr, il n'a jamais quitté son cœur, et elle a sans doute eu quelques échos de son baptême par Jean-Baptiste. Mais qui pourra décrire son allégresse lorsqu'elle le revoit ainsi pour la première fois ? Il a physiquement changé avec son séjour au désert et son jeûne de 40 jours. Et elle le voit entouré de quelques disciples qui lui sont sans doute aimablement présentés. Mais dans son cœur, la Vierge entend toujours la prophétie de Siméon. « Un glaive de douleur transpercera votre âme ». À la différence des apôtres, jeunes, naïfs, enthousiastes, elle sait que la mission de son fils sera très douloureuse. Et tout en acquiesçant pleinement à la volonté de Dieu, elle ne peut manquer de craindre l'arrivée de l'heure tragique. L'annonce de Jean-Baptiste « Voici l'agneau de Dieu » n'a certainement pas calmé ses inquiétudes, car si l'agneau est symbole de pureté, de douceur, d'obéissance, il est aussi l'animal qui est immolé 2 fois par jour dans les sacrifices du temple, et une fois par an, de façon très solennelle, pour toutes les familles juives, lors de la fête de Pâques. Or, précisément, saint Jean nous le dit juste après, dans les lignes qui suivent ce qu'on a lu tout à l'heure à l'Évangile, précisément, toute proche était la Pâque des Juifs. Il faut comprendre, mes frères, il faut comprendre cette inquiétude qui torture le cœur de la Vierge Marie pour apprécier à sa juste mesure la demande qu'elle présente à son fils par ces quelques mots « Ils n'ont plus de vin ». Ce n'est pas seulement un acte de foi et de charité serviable. Non, c'est un acte de charité héroïque. Car, bien sûr, la Vierge sait que son Fils est Dieu. Bien sûr, elle sait qu'il peut facilement arranger la situation des deux jeunes époux. Elle sait aussi que viendra un jour où il devra se manifester au monde. Mais humainement, loin d'attendre ce jour avec impatience, elle le redoute, car elle sait qu'il amènera l'heure de la grande douleur. Elle acquiesce pleinement au plan de Dieu. Loin de vouloir égoïstement garder son fils pour elle, elle accepte de le donner. Et justement, elle va manifester concrètement ce don par cette petite formule « Ils n'ont plus de vin ». Ce qu'on pourrait traduire « Mon fils, je sais qu'une intervention de votre part hâtera peut-être cette heure qui sera terrible pour vous et pour moi. Mais puisque de toute manière tel est le plan divin, ne pouvez-vous pas intervenir pour ces pauvres gens ?» Jésus comprend parfaitement le message et tout en acceptant d'intervenir, il rassure sa mère sur les conséquences de ce miracle qui ne modifiera pas l'heure de la passion. « Femme, répond-il, qu'est-ce que ceci pour moi et pour vous ? Mon heure n'est pas encore venue. » Dans le cœur de Notre-Dame, l'allégresse déborde. Elle s'empresse de transmettre la bonne nouvelle aux serviteurs du festin. « Faites tout ce qu'il vous dira. » Mais dans le cœur de Jésus aussi, l'allégresse déborde, parce que sa mère, sans même le savoir, car elle ne se regarde jamais elle-même, vient d'accomplir un acte décisif. En tant que nouvelle Ève, associée au nouvel Adam pour réparer le péché de nos premiers parents, elle devait recevoir la visite d'un ange et acquiescer à sa demande, comme la première Ève avait accepté la suggestion du démon. Et cela est déjà fait. Elle devait aussi fournir au second Adam la matière du sacrifice, c'est-à-dire son corps humain. De même que la première Ève avait fourni au premier Adam la matière du premier péché, le fruit défendu. Cela aussi est fait. Mais elle devait également, d'elle-même, encourager le second Adam à accomplir l'acte décisif et le prier de l'accomplir, comme la première Ève avait poussé Adam au péché. Or, c'est bien à Cana, en ce jour, que la nouvelle Ève intervient pour prier Jésus d'inaugurer sa vie publique par ces quelques mots « Ils n'ont plus de vin ». La grandeur, l'heure de la passion n'est pas encore arrivée. À ce moment aussi, Marie aura sa place debout auprès de la croix et on peut dire qu'elle recevra officiellement son titre de nouvelle Ève, puisque Ève signifie « mère des vivants », dans l'ultime parole du Christ, « Mère, voici votre fils ». Mais si cette heure n'a pas encore sonné, on peut dire que tout l'annonce et tout la préfigure dans l'épisode de Cana. Pour décrire les réalités du royaume de Dieu, Jésus ne parlera-t-il pas sans cesse de mariage et d'époux, de vignes, de vin, de banquets ? Et pour transmettre efficacement sa grâce, outre l'eau du baptême, ne choisira-t-il pas le vin qui doit devenir par une mystérieuse transmutation son propre sang, de même que le jour de Cana, l'eau est devenue par une mystérieuse transmutation du vin. Dans l'intelligence humaine de notre Seigneur, tout illuminé par la lumière divine, toutes ces réalités naturelles prennent immédiatement une signification surnaturelle. Elles désignent les biens de la grâce. Et évidemment, durant ces noces de Cana, notre Seigneur ne peut s'empêcher de contempler à travers tous ces symboles qui sont pour ainsi dire autour de lui, les grandes réalités surnaturelles qu'il va accomplir. C'est pour lui une source de joie. Mais la principale joie est certainement l'union des cœurs avec sa Sainte Mère, la Nouvelle Ève. Et n'oublions pas que si il y a un rapport de maternité entre Marie et Jésus, il y a aussi d'une certaine manière des épousailles. Marie, mystiquement, est l'épouse de son fils, et ses noces de Cana, de même qu'elles symbolisent l'union de toute âme avec Dieu, symbolisent aussi l'union de l'âme de la Vierge avec son Dieu, avec son fils. Et d'une certaine manière, ce sont ces noces aussi qui sont célébrées ce jour-là. Profitons, mes frères, de cette messe pour mieux nous unir à toutes ces grâces que notre Seigneur Jésus-Christ veut nous donner par ses sacrements, et notamment le sacrement de l'Eucharistie, mais qu'il veut nous donner par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie. Certains voudraient nous faire croire qu'il y a opposition entre Marie et Jésus, c'est évidemment bien le contraire. Jésus a voulu à toutes les étapes de sa vie terrestre nous montrer comment c'est l'intervention de sa mère qui permet que nous recevions davantage les grâces de sa rédemption. Donc que cette fête, avec cet évangile, nous fasse grandir dans la dévotion à la très sainte Vierge Marie, notamment par la récitation du rosaire. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.